Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h37, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. C'est l'histoire d'une famille française que nous allons vous raconter aujourd'hui. Avec Elisabeth Martichou, nous recevons donc Jean et Pierre-François Veil. Elisabeth, c'est à vous.
Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. C'est un événement tout à fait exceptionnel. On est très très heureux de vous recevoir.
Bonjour à vous deux.
La panthéonisation de Simone Veil aux côtés de votre père Antoine Veil dimanche. Ce sera la nation qui à ce moment-là honorera vos parents. J'ai envie de commencer par une question assez personnelle, si vous me le permettez. Vous, les enfants, qu'est-ce que vous ressentez dans le fond à ce moment-là? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Est-ce que c'est d'abord une immense fierté ou est-ce que c'est une forme d'arrachement aussi? Pierre-François Veil.
Bonjour madame.
Bonjour à vous.
Ben vous avez tout dit. C'est, ou presque tout dit. C'est évidemment une immense fierté. Et puis une immense reconnaissance, parce que l'année que nous venons de vivre a été une année accompagnée par des millions de témoignages ou des dizaines de milliers de témoignages d'amitié, de soutien, de gentillesse, qu'on reçoit tout le temps. Alors de temps en temps, on voit passer un message de haine. On est toujours surpris, à peu près aussi haineux que ceux que recevait maman en 1974. Vraiment,
au moment de la loi.
D'une délicatesse particulière. Mmh. Il se trouve que j'en ai encore reçu un avant-hier, donc comme nous partageons tout, je l'ai partagé avec mon frère.
Et ce matin, nous le partageons avec vous, puisque vous nous en parlez dès votre première réponse. Ce qui veut dire que ça continue de vous marquer, de vous atteindre et de vous faire souffrir.
C'est jamais très agréable de recevoir une lettre qui se termine par « Je vous vomis sur vous et sur votre mère ». Des choses dont on se passe. Hein. 15 ans après la, 15 ans après le vote de la loi, un dingue anonyme envoie un message ponctué par cette formule élégante « Je vous vomis ».
40 ans.
Oui, 40 ans.
Comme le temps passe. Mais c'est effrayant. C'est bon. Enfin, c'est comme ça. Mais donc. Tellement de messages de soutien, d'amitié, de gentillesse et en même temps de délicatesse. C'est tout à fait extraordinaire.
Alors, revenons-en finalement à la question que vous posez il y a quelques instants, Elisabeth, qui est-ce que vous vivez un arrachement? Parce que c'est un arrachement et en même temps, est-ce que cet hommage continue de vous toucher et de vous émouvoir? Peut-être j'en veille maintenant votre...
Oui, d'abord la décision du président de la République, applaudie lors des funérailles aux Invalides, par les gens qui étaient là.
La décision de la panthéonisation. Vous aviez donné votre accord, bien sûr, il ne l'aurait pas fait sans cela.
Oui, j'avais donné mon accord, j'ai dit au président de la République que maman n'avait jamais pensé aller au Panthéon, que ce n'était pas du tout... les ambitions qui pouvaient être les siennes.
Jamais de son vivant.
Absolument jamais.
Ni votre père.
Mon père disait ta mère ira au Panthéon et nous avons vécu 67 ans ensemble. Ce serait bien qu'on ne soit pas séparés. Essaye de nous trouver un lit à deux places. Ce que j'ai raconté au président de la République lorsqu'il nous a téléphoné pour...
Lui avez parlé du lit à deux places à Emmanuel Macron?
Oui, je lui ai dit, papa, parler d'un lit à deux places, j'en suis resté là, et quelques jours après, il nous a rappelé pour nous dire qu'il avait pris la décision que les deux iraient au Panthéon, enfin maman au Panthéon et papa pour l'accompagner, voilà. Et donc ils restent ensemble dans le lit à deux places.
Si vous me permettez, il y a déjà des couples au Panthéon, mais c'est la première fois qu'un mari entre au Panthéon par le mérite de sa femme.
Par le mérite de sa femme et puis les changements de la société. Effectivement, Marcelin Berthelot et son épouse sont ensemble au Panthéon. Ils sont décédés à 10 minutes d'intervalle. Elle d'abord et lui dans le chagrin est mort 10 minutes après. Et compte tenu de son action toute sa vie, il a emmené son épouse l'a suivi au Panthéon. Là, c'est l'inverse. Et c'est l'état de notre société aujourd'hui, c'est l'équité et la parité.
Je n'ai toujours pas ma réponse à ma question, et donc je me tourne à nouveau vers vous, Pierre-François.
Alors, l'arrachement...
Non mais on fait des détours, ben oui, on fait des détours
extraordinaires. L'arrachement, c'est quand nous avons tous perdu des proches, et on sait la cruauté de ces deuils donne comme sentiment, effectivement, un arrachement de soi-même. L'année que nous venons de passer, et jusqu'au 1er juillet, la situation a perduré en ce qui nous concerne par le fait qu'il faut participer, gérer, éventuellement donner un avis, arbitrer. Et puis les témoignages permanents qui sont à la fois extraordinairement doux, mais en même temps... c'est difficile et ça rappelle. Vous savez, quand vous êtes appelé par les pompes funèbres pour savoir comment on va sortir vos parents de leur tombe pour les mettre.
Du cimetière Montparnasse, vous les aviez laissés.
De Montparnasse au Panthéon. Alors certes, c'est dans le même arrondissement. La Frontelin est à la frontière du 6e et du 14e. C'est tout près avec le 84, ça va très vite.
Ils partiront du mémorial de la Shoah dans quelques minutes, quelques heures avant la panthéonisation. C'est vous qui l'aviez demandé. Ça, c'était votre...
Pierre-François et moi, nous avons, sur ce plan-là, on nous a dit, il faudra trouver un circuit ou un cheminement. Et on nous a dit, en 2015, les quatre résistants qui ont été panthéonisés sont partis de la Sorbonne. On a pensé que votre mère pourrait peut-être partir... d'un des monuments parlementaires, c'est-à-dire soit le Sénat, soit l'Assemblée nationale. Et Pierre-François et moi avons dit, après y avoir réfléchi, pas venu comme ça d'un seul coup, peut-être que ce serait mieux de partir du mémorial de la Shoah.
Pourquoi ?
Même s'il faut
Parce que probablement elle y allait plus souvent qu'à l'Assemblée nationale ou au Sénat, où elle n'a précisément jamais siégé ni à l'un ni à l'autre. Et je pense que du Parlement de Strasbourg, c'eût été un peu loin. Donc voilà, ça nous paraissait tout à fait naturel et tout à fait représentatif des symboles de ce à quoi elle était attachée. Je voudrais revenir un instant sur la question que vous posiez peut-être de façon un peu indirecte tout à l'heure. Au frontispice du Panthéon, il est inscrit aux grands hommes la patrie reconnaissante, de mémoire.
Oui, oui.
Et je trouve que ça rétablit une leçon de syntaxe, de vocabulaire, qui serait chère à l'Académie française, à laquelle maman était très attachée. Les grands hommes, c'est pas le genre, c'est je sais pas s'il faut...
C'est l'humanité.
L'espèce, c'est l'humanité.
D'ailleurs, c'est avec un grand H.
Oui, mais toutes les lettres, je crois, sont en majuscule. Pardon.
Mais ils sont frères, donc mises au point fraternelles, c'est très juste. Pierre-François, veuillez-vous terminer votre intervention.
Et donc, je trouve que c'est une magnifique leçon. Moi, je suis très très fier que ce soit maman qui fasse ça. Et qui emmène notre père.
Oui, dans ce sens familial et à travers la vie que vous avez vécue les uns avec les autres. Pardonnez-moi, mais j'insiste, vous vivez une situation très particulière, qui est celle de voir votre mère entrer au Panthéon, accompagnée de votre père, car je crois que c'est finalement la façon la plus simple de présenter les choses. Et en même temps, vous leur avez dit au revoir, ils étaient déjà enterrés, vous venez de nous rappeler que physiquement, en ce moment, vous vivez un double arrachement, puisqu'on va les retirer de la terre dans laquelle ils reposent pour aller au Panthéon. Est-ce que vous êtes en accord avec tout ce qui se présente part en ce moment. Je ne cherche pas du tout à créer du dissensus, mais cette situation familiale est quand même tout à fait particulière. Alors, quand vous aurez à vous recueillir auprès de vos parents, vous irez au Panthéon. Et donc, il y a un nombre très faible de petites familles françaises.
On a vérifié que c'était presque ouvert autant que les cimetières.
Et donc, la réponse est oui.
La réponse est oui.
D'accord. Mais quand même, sur cette situation.
C'est certain que les enfants de l'abbé Grégoire, qu'il n'a pas eu, n'ont pas été confrontés à ces difficultés.
Oui, Mais
effectivement, nous avons vérifié que le Panthéon est ouvert tous les jours, et il est ouvert 363 jours par an, accessible à tout moment et dans des conditions très, très faciles. Et d'autre part, l'organisation, puisque c'est sur cela que portait votre question,
quelque chose de très particulier, ouais.
Le président de la République et ses services et les services de l'Élysée sont très attentifs, même si, bien sûr, les décisions leur appartiennent, sont très, très attentifs en permanence à ce que nous pouvons dire et à ce que nous pouvons éventuellement les aider à choisir.
Je peux revenir sur une chose sur laquelle on a glissé il y a quelques instants. Vous nous avez expliqué, Jean Veil, que finalement, votre mère n'avait jamais songé à son entrée au Panthéon, mais que votre père vous avait demandé de l'organiser. Ce qui dit quand même quelque chose de votre vie familiale. C'est-à-dire qu'il projetait sa femme et elle vivait au jour le jour sa situation et sa popularité auprès des Français.
On la projetait en la tenant par la main, quand même.
Oui.
Hein.
Je pense que vous avez compris le sens de ma question.
Oui, j'ai parfaitement compris, mais je me donne du temps de réfléchir à bien répondre. Donc, papa, comme nous tous, était très, 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 très fier et très conscient de ce qu'était maman, qui était d'une modestie qui correspondait à sa timidité elle-même. Elle avait toujours peur, au fond, de mal faire. Elle ne faisait pas si mal, en définitive, et le président de la République, et je crois beaucoup de Français l'ont conçu ainsi. Elle a un parcours tout à fait atypique, c'est une personne tout à fait atypique, et nous en avions conscience. Pas elle.
Pas elle. Il y a un très beau film qui va passer d'ailleurs, qui retrace avec vous, vous intervenez largement dans le film, ainsi que vos enfants. C'est un film qui sera diffusé mercredi soir sur France 3, qui s'appelle Album de famille. On voit de nombreuses photos que vous avez prêtées pour ce film. Et justement, il insiste, ce film, sur son sentiment d'illégitimité, ce qui paraît inouï, parce qu'à chaque fois qu'on revoit le parcours de votre mère, il est, c'est vrai, sans emphase et sans vouloir en faire trop, il impressionne forcément. Et elle se sentait illégitime.
C'était un curieux mélange à la fois de... Moi, je me souviens très bien quand Jacques Chirac lui a téléphoné pour qu'elle rentre au gouvernement en 1974. Mon père m'a téléphoné. Et elle a dit, et puis je lui ai parlé au téléphone, et elle m'a dit ce qu'elle a dit à chacun d'entre nous ensuite. De toute façon, ça ne durera pas parce que je ne peux dire que des bêtises, je ne ferai pas bien, ça durera 8 jours, mais c'est amusant. Et puis on peut pas indéfiniment critiquer les autres si quand on vous propose de faire les choses, on les refuse.
En 1791, c'est la Révolution française qui propose de transformer l'Église, non pas encore.
Non,
et c'est comme ça que le Panthéon devient le Panthéon qui doit accueillir les héros de la patrie. L'héroïne qui est votre mère, elle est d'abord pourquoi ? D'abord parce que ce qu'elle a vécu pendant la Shoah, pour tout ce qu'elle a fait pour les femmes ou pour tout ce qu'elle a fait pour l'Europe. Pour vous, c'est quoi d'abord ? La raison pour laquelle elle entre au Panthéon ?
Pierre-François Veil.
Dans une semaine.
Pour nous, d'une part, et la raison pour laquelle elle est une héroïne pour les Français, d'autre part, n'est pas tout à fait la même. Pour les Français, je pense qu'elle est une héroïne, d'abord parce que, j'allais dire statistiquement, c'est pas juste, elle a déjà la moitié des Français qui sont des femmes, et qui par conséquent ne peuvent que lui être reconnaissantes de ce qu'elle a fait. Donc déjà, dans les sondages, ça démarre bien avec 50%. Quand on part avec un socle indestructible de 50%, c'est déjà pas mal. Et donc, je pense que ça a une place absolument essentielle dans ce qu'elle est devenue et dans ce qu'elle a pu faire avec le poids que ça lui donnait.
Les femmes, la cause des femmes d'abord.
L'Europe, elle a été une...
La première présidente du Parlement européen, on l'appelle. Hein.
Première présidente élue au suffrage universel.
Voilà.
Parce que si on disait la première présidente, on pourrait penser qu'il y avait eu des hommes avant.
Les femmes, ouais.
Alors que ça a été la première présidente élue au suffrage universel.
Et puis c'est un titre, et les titres sont au masculin.
C'est un combat que nous menons chaque fois que une ville nous demande de pouvoir honorer maman et de mettre ce titre sous son nom. Pour qu'on ne la confonde pas avec la philosophe, par exemple. Mmh. Et nous disons chaque fois que c'est président. Mais l'Europe a été un combat que les Français ont porté longtemps. Il faudrait du reste qu'ils s'y remettent. Ça serait une bonne idée. Sans vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas.
Dans le contexte, vous voulez dire.
Mais il est évident que... son parcours très particulier que les Français n'ont, n'ont découvert que très tard. La première fois qu'elle en parle, c'est avec c'est dans le film de Janson en 1976. Puis ensuite, il faut il faut beaucoup de temps. Et puis c'est une époque extraordinairement perturbée. C'est une époque où les négationnistes s'affirment.
Mais vous le saviez, vous êtes adulte quand elle révèle, quand les Français réalisent qu'elle est rescapée de la Shoah. Vous le savez.
Nous on le savait depuis toujours. Vous me parliez tout à l'heure de la violence. J'ai eu l'occasion, il se trouve que j'ai eu l'occasion de plaider le dossier Forisson. Vous savez, quand vous êtes à la première chambre de la Cour d'appel de Paris et que vous avez un confrère qui se lève en prenant le manifeste de la déportation de Serge Klarsfeld et en disant que la preuve qu'on est en droit de discuter l'existence des chambres à gaz, c'est que dans le convoi 71, Madame Simone Jacobs et Madame Simone Veil, avec elle est bienvenue. C'est une violence qui vous... Voilà.
Bon. Vous marquez.
Qui, c'était il y a 40 ans et je suis encore un peu, voilà, un peu troublé. Bon. À ce moment-là, on est quand même pris... d'une envie de déposer sa robe pour ne pas faire honte à l'hermine qu'on porte. Et à aller avoir une ou deux leçons, une ou deux petites explications avec l'individu en question. Mais peu, revenons à ce que vous disiez. C'est un parcours que les Français admirent. Et en même temps, pour ce qui la concerne, et je crois que ça répond à la question que vous posiez, tous les déportés, quels qu'ils soient, pour eux, ils sont revenus, ils avaient... Tout le monde promettait de revenir pour raconter, pour dire ce qui s'était passé. Je le sais parce que c'est ce que maman m'a raconté. Et tous disent la même chose. Mais si vous écoutez Marceline Loridan, si vous écoutez... Ce qu'il y a après la libération du camp, c'est du rab. Et ça explique peut-être en partie, je n'en sais rien, ça explique peut-être en partie aussi ce sentiment d'illégitimité dont vous parliez.
Je voudrais aller un tout petit peu plus loin.
Et ensuite, je vous le dis parce qu'on va se séparer.
Nous aussi
la dernière, nous non, mais l'actualité va reprendre un certain nombre de droits. D'accord. Et donc non, c'est votre dernière intervention, Jean-Baptiste, je me permets de le préciser.
Ce que je voulais dire, c'est la chose suivante, c'est que au-delà des conflits, de l'histoire qu'on a vécue, nous le savions depuis toujours parce que nous n'avions pas de grands-parents maternels. Or, nous comparions la situation de papa et la situation de maman. Papa avait ses parents, ses sœurs, ses frères, il n'avait pas de frères, mais ses sœurs. En ce qui concerne maman, il n'y avait plus personne dans sa famille, ou pratiquement plus personne. Et donc, on lui demandait pourquoi on n'avait pas de grands-parents. Il fallait bien qu'elle nous réponde. Donc, on a su très très jeune ce qu'était l'histoire de maman, parce qu'elle nous l'a raconté. Les détails sont venus après. Au fur et à mesure que nous grandissions, que nous prenions un peu de maturité. Mais au fond, assez vite, nous avons su à peu près la totalité.
Et ce que vous voulez dire, c'est que tout vient de là, quand même. Évidemment, Simone Veil.
Ah non, ce que je veux dire absolument, c'est que maman s'est construite, d'une part en regardant le couple de ses parents, et d'autre part à partir de la Shoah, notamment en ce qui concerne l'Europe. Le droit des femmes, c'est les rapports entre son père et sa mère, et le fait que son père ne voulait pas que sa mère travaille. L'Europe, c'est évidemment la Shoah. Nous sommes allés vivre en Allemagne à la fin des études de mes parents. Ça ne devait pas être très amusant pour maman, qui avait entre 20 ans et 23 ans, de retourner vivre en Allemagne, même si c'était avec les troupes d'occupation.
Ouais, elle sortait des camps.
Elle ne serait pas allée vivre en Pologne.
Non. Elle est allée, en revanche, elle a accepté beaucoup d'accompagner plus tard.
Oui, mais pas d'y vivre.
En Allemagne.
Oui. Mais elle ne serait pas allée en Pologne.
Merci beaucoup, Jean et Pierre-Antoine Veil, d'avoir été avec nous.
On a mélangé toute la famille. Merci beaucoup, Jean et Pierre-François.
C'est ce que j'ai pas dit ?
Non, vous avez dit Pierre-Antoine, mais c'est pas grave. Mais c'est normal, puisque Simone Veil, au Panthéon dimanche avec son mari Antoine. Je vous signale juste que je l'évoquais ce matin à l'ouverture de notre antenne. En marchant dans les rues de Paris hier, j'ai vu les affiches sur lesquelles il y avait écrit « Merci Simone ». Et je pense que très simplement, c'est l'hommage que les Parisiens ou les Français peuvent rendre à votre mère aujourd'hui. Nous étions heureux de vous accueillir.
Merci Simone pour mes enfants.
Et ben voilà, émission spéciale sur RTL dimanche de 11h à 13h et avant aujourd'hui à 14h. La curiosité est un vilain défaut consacrera aussi son émission à la riche vie de Simone Veil. Merci Alain et à l'autre d'être venu nous voir ce matin.
Merci
bonne journée à vous deux.